Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode de Step Story, je suis avec Hervé Bloch, CEO et fondateur de Les Big Boss. Salut Hervé.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de ce podcast. Avant qu'on commence et que tu commences un peu à te présenter, est-ce que tu peux me présenter très synthétiquement Les Big Boss, le concept, ce que tu fais avec Les Big Boss?
Alors, Les Big Boss, c'est un format événementiel que j'ai créé il y a 6 ans. On a organisé le 100e événement l'hiver dernier, le mois dernier, et on réunit des donneurs d'ordre B2B qui ont des problématiques souvent d'accélération digitale. Et on va donc en face leur présenter les prestataires qui peuvent permettre de répondre à leurs projets, à leurs besoins du moment. Donc c'est un outil de matchmaking business vu comme tel par les prestataires et un outil de networking puissant pour les big boss, qui vont pouvoir rencontrer leur père, échanger avec leur père et bien sûr faire le choix de nouvelles solutions pour avancer dans leur accélération digitale.
Ok, donc c'est de la mise en relation business où des donneurs d'ordre rencontrent des prestataires en dehors de leur zone de confort en fait.
Exactement.
Ok, donc le but, la signature, comme tu l'écris sur ton site, c'est de faire avancer le business, des big boss juste entre humains.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, les gens n'ont plus l'habitude de se rencontrer, ils n'ont plus le temps, les donneurs d'ordre sont sans cesse sollicités par téléphone, par email, par LinkedIn, ils ne répondent plus. Et les prestataires, bah, du coup, n'arrivent plus à générer des retours sur investissement de leur démarche commerciale, alors que justement, sur les événements, ils ont enfin la possibilité d'échanger avec de futurs clients et du coup de créer des liens business qui vont se convertir par des ventes dans les mois qui suivent les événements.
Ok, donc c'est aussi un endroit pour générer du lead, générer du business en fait, totalement.
Exactement.
Ok, bah écoute, on en a bien découvert un peu sur les Big Boss, on va vraiment rentrer dans les détails de tout ce qui est les événements, tout ce qui est le concept, etc. L'offre si tu veux, bien après. Enfin, très rapidement quand même. Moi, je vais te laisser dans un premier temps te présenter, 5-10 minutes, te présenter donc ton profil, ce que tu as fait avant, dans quelle boîte tu as travaillé, etc. Est-ce que c'est ton expérience passée qui t'a fait créer les Big Boss ou pas? Voilà, tu vas me dire un peu tout ça.
Alors moi, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants et quand j'étais petit, quand j'étais moi-même enfant, j'avais un rêve, c'était d'être chef de village au club méditerranéen. Parce que j'y passais toutes mes vacances, je rêvais d'être ce chef de village qui salue tous ces GM, qui pilote toutes ces équipes et qui fait en sorte qu'on passe des moments très sympathiques. Et puis en même temps, j'ai toujours eu une culture très business. Donc finalement, j'ai allié mes deux passions, le business et le club med. Et donc j'ai créé un format très atypique où certes le business est le point d'orgue, mais où on va créer une convivialité particulière. Et donc, cette convivialité qui est la base même du Club Med ou de Mama Shelter, par exemple, donc Serge Trigano qui, après le Club Med, a créé le Mama Shelter, cette convivialité va créer en fait une force plus importante. Donc ça marche pour les vacances, ça marche pour les moments sympathiques en lieu urbain, mais ça marche aussi dans le business. En fait, je suis convaincu qu'une rencontre autour d'une piscine ou autour d'un groupe de ski ou autre va créer plus de force qu'une rencontre simple dans un hall d'exposition ou dans un petit déj, dans une conférence ou autre. En fait, vraiment, le relationnel qu'on crée dans des moments atypiques ou dans des lieux atypiques va créer plus de force, plus de mémorisation et plus d'intérêt.
Donc ça, toi, justement, c'est ta conviction qu'en fait, il y a limite plus d'intérêt dans des moments où on n'est pas assis en costard autour d'un bureau, mais justement dans des événements où, dans des endroits où on est plus relaxant, on n'a pas l'habitude de penser au business, en fait. C'est ça, ta conviction?
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans son business quotidien, mais on prend pas forcément le temps d'échanger avec de futurs prestataires, même d'échanger avec des pairs, parce qu'on court, en fait, tous ces problèmes du quotidien, tous ces enjeux du quotidien. Alors que là, on prend un peu plus de hauteur. D'échanger entre pairs, c'est très important, et puis de prendre le pouls d'un marché et de sujets, ça a du sens aussi.
Ok, bon, on va faire un petit rewind. Alors, du coup, justement, cette idée de créer des événements où on va faire rencontrer les donneurs d'ordre dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude, même s'ils y pensent toujours, d'exécuter leur business, en fait, comment l'idée est venue? À quel moment tu t'es rendu compte peut-être qu'il y avait un petit pain, un petit problème, et qu'il fallait résoudre sous la forme que tu as créée aujourd'hui?
Exactement. En fait, le principe, c'est que il y a 20 ans, donc j'étais animateur de speed dating, amoureux. J'avais beaucoup observé, et c'est les mêmes mécaniques donc entre un homme et une femme, et entre un fournisseur et un client. Et donc, pour moi, je trouvais pertinent de tester l'approche, d'adapter le speed dating amoureux dans un univers business. Vocation, mais c'est les mêmes parties du cerveau qui vont fonctionner, donc le cerveau rationnel, cartésien, et le cerveau plutôt émotionnel, dans l'affect, dans les sentiments. Et donc il faut les deux, que ce soit dans la rencontre amoureuse ou dans la rencontre business, il faut bien se sentir, il faut bien sûr comprendre, il faut bien sûr créer des affinités, mais aussi des affinités humaines, hein, où nous sommes mammifères, on a besoin de renifler, de sentir, d'observer, de regarder. On va même travailler même le cerveau reptilien, le cerveau que tous les animaux ont, que nos enfants ont dès la naissance, là où on va travailler la peur, la joie, etc. Donc nos publicitaires travaillent beaucoup sur ces sujets. Donc dans la rencontre business, on est dans tous ces aspects-là. Et donc, lorsque j'ai eu l'idée de lancer cet événement un peu fou, les Big Boss font du ski, donc en 2013, bah, j'avais un carnet d'adresses de décideurs digital, j'avais cette envie de les réunir. On n'a pas fait de dating format au final, on est sur skier, mais c'est l'année d'après où j'ai décidé de faire un été, et les gens m'ont dit bah oui, mais qu'est-ce que tu veux nous faire l'été, parce qu'on ne va pas faire du ski aux Canaries. Ouais. Et donc, c'est là où j'ai eu l'idée de faire ces datings. J'avais déjà commencé en 2011, avant de créer les Big Boss, je faisais des speed datings dans Paris, où je présentais prestataires annonceurs, et ça avait un beau taux de conversion. Et donc, voilà, donc, quand je me suis dit, bah tiens, j'ai 200 personnes aux Canaries, qu'est-ce qu'ils vont faire la journée, puisqu'ils ne peuvent pas skier, ok, bah, je vais organiser un speed dating géant. Alors, il y a beaucoup d'erreurs au début, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de sujets qui étaient en gros des erreurs qui avaient été faites, un peu de synchronisation. Et puis au fur et à mesure, on a sophistiqué. Et puis bah, c'est de là qu'a décollé en fait les Big Boss, parce qu'il y a un vrai besoin, de faire se rencontrer des gens qui ont intérêt à se rencontrer, donc à la fois pour des big boss qui doivent choisir les bons partenaires pour le prestataire, tout simplement pour faire du business et puis générer de l'activité. Et donc, autant le faire de manière sympathique, autant le faire de manière décalée, autant le faire dans un moment décalé. Hein. Nous, nos événements, les événements principaux sont les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai sacrifice, finalement, que vont faire les participants par rapport à leur vie de famille ou à leur vie amoureuse, privée, etc. Donc, voilà. Donc, en gros, le fait de réunir des décideurs un vendredi, samedi, dimanche, de vivre en immersion et donc d'avoir des relations qu'ils n'ont plus l'habitude d'avoir, parce que la moyenne d'âge c'est 40 ans, globalement 30-40 ans, bon bah on n'a plus vraiment de moments comme ça, de week-end étendu, etc. Donc ça c'est très, très intéressant. En 6-7 ans de Big Boss, on a des gens qui se sont liés d'amitié, qui ont créé bien sûr beaucoup de business entre eux, mais qui sont
plus loin.
Qui sont devenus fraternels, ça va plus loin. On n'a pas envie en plus de la faire à l'envers quand on a rencontré quelqu'un en Big Boss, parce qu'au contraire, déjà tout le monde se parle, donc si on fait des choses mauvaises, ça se sait très vite, et au contraire, si on fait des choses bien, eh ben, ça se sait très vite aussi, et tant mieux, parce que ça crée du business indirect, par ricochet, etc. Donc en fait, l'enjeu des événements Big Boss, c'est de créer du business de manière décalée, et de manière décalée, on s'en souvient plus. On s'en souvient plus que bah, dans une rencontre classique, qu'elle soit à Paris ou dans des villes de province ou autre. Voilà, nous, on crée quelque chose d'atypique. Le fait d'être au Club Med, justement, comme moi, c'était mon rêve de jeune. Mais finalement, ma génération de quarantaine, on a tous vécu le Club Med. On a tous vécu ces moments sympathiques, ces moments de lâcher prise. Et donc, lâcher prise avec potentiellement des partenaires d'affaires, ça a du sens. Et c'est ce qu'on a développé. Alors depuis, on a beaucoup décliné. On a créé des formats plus faciles à gérer pour les décideurs, des dîners, des journées, des verticales.
Donc justement,
cet aspect immersif.
Alors, excuse-moi, je te coupe, mais justement, ces rencontres atypiques, maintenant, je vais te demander de revenir sur les quatre familles d'événements. Les opus, les verticales, les journées et les dîners VIP. Donc, dans l'ordre que tu veux, l'objectif et le format de chacun, c'est ce que tu allais faire. Donc, vas-y.
Alors, le format que j'ai développé, Alors déjà, j'ai commencé par les opus. En 2013, premier opus ski. Ensuite, je fais une summer, 2014. Bon. 2015, j'ai introduit des dîners. Parce que justement, les opus prenaient de la place en nombre. On a commencé à 250. Et donc, bah, c'était sympa aussi de créer des moments avec des têtes d'affiches. Et donc, j'ai reçu chez moi, j'avais une grande cuisine haussmannienne, un peu comme Thierry Ardisson lorsqu'il faisait l'émission 93 Faubourg. Et ben voilà, donc je faisais le dîner dans ma cuisine, je faisais venir un chef étoilé, il y avait au départ un petit cocktail dans le salon. Voilà, donc en gros, les gens étaient donc dans mon salon, dans ma cuisine. Et puis, donc il y avait vraiment comme des amis que je recevais à la maison, tout simplement. Et alors, je me rappelle, à chaque dîner, on faisait un caricaturiste, on a fait venir une chanteuse d'opéra, on a venir donc un peintre, et donc voilà, donc à chaque fois il y a une petite animation, on a fait venir un mentaliste, voilà. Et puis donc des têtes d'affiche, c'était les plus hautes têtes d'affiche qui venaient à nos événements, et donc les dîners ont pu, donc on doit être au 60e dîner aujourd'hui, donc on fait beaucoup beaucoup de dîners, hein, près de 2 par mois, 2-3 par mois, donc c'est une grosse intensité. Okay. Alors maintenant les dîners ils sont par, au début c'était générique, hein, c'était que des têtes d'affiche, alors maintenant les têtes d'affiche comme elles sont nombreuses, c'est sectorisé, donc on a des dîners par thématique sectorielle, par exemple banque assurance, par exemple tourisme, mode, beauté, retail, et puis on a aussi des dîners par fonction, par exemple le prochain dîner c'est la fonction UX, donc user experience, on a la fonction e-commerce, on a la fonction marketing, on a la fonction IT, et donc d'ailleurs on a diversifié, maintenant on va même sur des sujets encore plus loin, direction financière, direction des ressources humaines, direction achat, direction juridique, direction immobilier, donc on a beaucoup diversifié, et donc et puis après on s'est dit que tiens, les dîners qui marchaient bien, autant les tester en journée, donc on a lancé la première journée, c'était banque assurance, et puis après on a lancé les verticales sur 2 jours, donc là on a fait venir des gens par exemple de la mode et de la beauté, du retail, on a fait venir des gens du tourisme, et voilà, donc aujourd'hui on a fait 4 formats, donc les dîners, petit comité 30-50 personnes, on a les journées comité un peu plus large entre 70 et 150 personnes, on a les verticales où on va être entre 100 et 200, et puis les opus où on va être 650, donc chacun va choisir les formats qui l'intéressent, certains big boss préfèrent les grands de messe, summer, winter, d'autres au contraire le dîner qui correspond à leur clan, à leur famille, donc à leur famille sectorielle ou à leur famille fonctionnelle. Et donc, pareil pour les prestataires, certains se sentent plus à l'aise sur des dîners en petit comité, d'autres sur des gros opus. Donc chacun va choisir, on lance d'ailleurs un nouveau format en 2020, allez en avant-première pour le podcast, on lance un gala. Donc ça va être un gros dîner, 250-300 personnes, dans un endroit prestigieux à Paris. On va donc essayer de réunir la crème de la crème, et pourtant dans un format qui peut aller jusqu'à 250-300 personnes. Donc on a déjà la date, le 2 décembre, on est en train de travailler le lieu, on est en train de travailler le programme, on est en train de travailler les spécificités, parce qu'il faut toujours avoir notre ADN. Par exemple, les speed dating, on les retrouve dans chacun de nos formats. Les dîners, c'est en première partie de soirée, les journées, c'est en matinée, les verticales, c'est le premier jour, et les opus, c'est le premier jour. Donc en fait, dans chacun de nos formats, le dénominateur commun, c'est ce fameux speed dating, donc ce fameux gong, puisqu'en fait, mes équipes ou moi, on tape dans un gong toutes les 7 minutes pour justement assurer la transition d'un rendez-vous à l'autre.
Ok, bah écoute, t'as fait une super transition avec quand tu parlais de l'organisation du gala pour le 2 décembre, parce que ma prochaine question c'était comment tu décides des lieux, des thèmes pour chaque événement Big Boss, et surtout tu vas me parler de la présence de sponsors et de leur implication, de leur importance dans chaque événement. Comment tu tranches en fait pour le lieu et comment tu impliques des sponsors ou comment eux s'impliquent dans justement cette organisation pour à peu près toutes les familles d'événements en fait.
Alors, très bonne question. Déjà, on écoute beaucoup. Depuis le premier événement, on a un questionnaire de satisfaction. Donc, les gens nous remontent des typologies d'événements, des typologies de secteurs, des typologies de fonctions, voire même nous soufflent des lieux. Donc, on écoute beaucoup, on repère beaucoup. J'ai 3-4 personnes qui sont dédiées sur le repérage des lieux et puis, bien sûr, le montage ensuite des événements. Donc, par exemple, mon directeur commercial me dit, Hervé, on n'a pas mal d'acteurs dans la data au niveau des sponsors, et si on faisait un dîner data, Eh bien, on a cartonné, super dîner. En plus, il y a des gens différents, parce que le Chief Data Officer, ce n'est pas forcément le Chief Digital Officer. Et donc, bah, ça nous permet d'aller chercher plus loin des gens qu'on n'avait pas forcément sur nos événements traditionnels. Voilà, donc bah, ce dîner a très, très bien fonctionné. Du coup, on passe en journée, et pourquoi pas en vertical les années suivantes. Okay. Ensuite, le gala, bah, c'était, ça fait longtemps que les participants nous disaient « Hervé, tu ne veux pas faire un bel événement dans Paris, tu réunis la crème de ta crème ?» Oui, effectivement, donc là, on a décidé de le faire. Dans les lieux, bah, on a beaucoup de contraintes, nous, parce qu'il faut une salle pour le déni, il faut un hébergement en cuisine, il faut un maximum de gens dans le même hôtel, parce que sinon, bah, c'est dommage de ne pas profiter des moments un peu plus calmes pour interagir. Donc, en fait, on va choisir des... Pardon, on va choisir des lieux qui correspond à notre cahier des charges, avec le CSI et le COMPEX, et en même temps, voilà, aux ADN qu'on veut avoir sur nos événements. Par exemple, le Cabo, on aime beaucoup, parce que le casino, l'hôtel, le grand hôtel, où on marche sur l'été avec sa grand-mère, ou même les dernières scènes des Intouchables, ça se passe au grand hôtel de Cabo. Et ben, le fait qu'ils aient une boîte de nuit aussi à l'intérieur du casino, enfin, tout ça fait que c'est très... tout se fait à pied, tout se fait de manière très simple. Voilà, puis Cabourg, il y a un côté un peu famille dans la ville de Cabourg. Donc voilà, donc c'est un beau spot où on a fait pas mal d'événements. Et puis voilà, là on va tester d'autres on va tester nos villes, on va tester la Baule. On a fait beaucoup, on a testé Marseille il y a 2-3 ans, qui était très sympa aussi. Voilà, donc en gros, puis on a des contraintes. Par exemple, sur une journée, on est obligé de rester proche de Paris. On prend les spots du Bois de Boulogne, on privatise des lieux, des boîtes de nuit, on privatise par exemple, on privatise le salon Angelina, qui est un salon des mythiques à Paris, entre Rivoli, et ben, on va le prendre pour des dîners. On a donc, bien sûr, les opus Summer Winter, alors c'est des choses qu'on prévoit longtemps à l'avance. Par exemple, l'événement, la seule qui arrive du 12 au 14 juin prochain, donc dans 6 mois, eh bien, on a déjà la date, on a déjà le lieu, on a déjà le budget, on a déjà tout, en fait. On parle façonné, mais tout le gros œuvre est à peu près. Et on est déjà en train de poser la question de quelle destination pour Winter 2020, qui aura lieu dans 11 mois. Donc, c'est beaucoup de prévisibilité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation. Il y a des lieux qui conviennent tout à fait à notre expérience. Qui ne convient absolument pas. Et donc, voilà, on se doit d'avoir une signature particulière pour trouver dans nos lieux.
Et dans toute cette organisation, c'est quoi l'importance des sponsors aujourd'hui? Est-ce que tu peux me donner des exemples de sponsors Big Boss? Pourquoi devenir sponsor? Et surtout, comment on devient sponsor des Big Boss?
Alors, bien sûr, les sponsors, c'est très important, hein, puisque c'est ce qui va générer le chiffre d'affaires sur nos événements. Mais je dirais le plus important, c'est quand même les big boss, hein, donc nos décideurs, nos têtes d'affiche, nos jurés. Voilà, c'est un mix des deux. Hein. Si on n'a pas de big boss, bah, les sponsors sont pas contents. Si on n'a pas de sponsors, bah, on fait pas de chiffre d'affaires. Donc, il faut quand même les deux. Alors, les sponsors sont bien sûr stratégiques. On a eu une stratégie, nous, de fidéliser nos sponsors beaucoup. Donc, on a des sponsors qui sont là depuis le début, hein, depuis 2000. 13. Je pense que sur les 25 sponsors de 2013, je pense que 21 sont encore là. Okay. Donc, on a une très grande fidélité. Et justement, par rapport à cette fidélité des sponsors, on se doit d'avoir un renouvellement en permanence des Big Boss. Donc, d'avoir au moins la moitié de nouveaux à chaque édition. Alors, ce qui nous sauve dans les nouveaux, c'est qu'on a aussi des gens qui changent de boîte. Donc, un individu qui change de boîte, il est considéré comme nouveau puisqu'en fait, il arrive avec des nouveaux sujets, des nouveaux budgets, etc. Donc, les sponsors, alors je peux en citer beaucoup, Amétix, Aulnay, Edo, et consorts, on doit avoir à peu près 300 sponsors actifs. Certains ont grandi avec les Big Boss. Et quand je dis ça, c'est qu'ils ont généré un chiffre d'affaires très important. Je peux citer Abetesti, Alix de Sagarzan, la fondatrice, disait qu'à peu près 30% de son business, c'était les Big Boss. Donc c'est quand même très important. Amétix aussi, près de 20-25%. Advisor. Donc on a même des sociétés qui ont vraiment révolutionné leur concept grâce aux Big Boss parce qu'ils ont signé leur premier gros deal qui ont amené les suivants. ils ont même fusionné entre eux. On a des sponsors qui ont fusionné. Je me rappelle de Alpha Lyre et Editrack. Je me rappelle de Edo et Line Up 7. Donc, ce sont des rencontres au Big Boss qui ont ensuite favorisé même des fusions entre elles. Et puis, bien sûr, ils font beaucoup de business. Un prestataire, en général, a un ROI qui va de x3 à x7 sur ses investissements.
Okay.
Donc, ben voilà, il dépense 100 000 euros, il dégage 700 000, ben, il est très, très content parce que son investissement est rentable. Et en plus, on prend la lifetime value dans le temps. En général, un client garde après 3 ans ses clients lui-même. Donc forcément, si on multiplie par 3 le potentiel, ben voilà, le ROI décuple encore. Donc en fait, les prestataires sont de plus en plus exigeants. Ils veulent plus acheter juste une page de pub dans un magazine. Ils veulent plus acheter un logo gros dans un salon. Ils veulent des leads. Ils veulent des rendez-vous qualifiés. Ils veulent des échanges construits, pertinents, et c'est ce qu'on leur faut.
Ils veulent du concret, quoi, en fait.
Exactement.
Ils veulent du concret. Ils veulent les gens en face d'eux, l'accessibilité directement, et c'est ce qu'ils ont au sein des Big Boss, en fait, directement au sein des événements.
Exactement.
Et donc, pour conclure, comment on devient sponsor aujourd'hui? Il faut faire un acte de candidature? Quels sont les critères? Est-ce qu'il y en a, etc.?
Alors, pour être sponsor, bah déjà, il faut correspondre à nos thématiques et aux cibles qu'on vise côté Big Boss. Alors, nous, on travaille beaucoup sur le matching. C'est pas parce qu'on a les moyens de sponsoriser qu'on va être sponsor. Alors, on n'a pas non plus les critères de sélectivité, mais on veut pas non plus qu'il y ait trop de sponsors d'un même sujet. C'est-à-dire qu'en gros, ça a pas de sens et pour les Big Boss de se retrouver avec 6 ou 7 concurrents dans un même événement. Ça n'a bien sûr pas de sens pour les concurrents entre eux qui s'usent à force de faire le même pitch pour les mêmes Big Boss. Et donc, une fois qu'on a bien validé que le territoire n'était pas déjà très occupé par les autres et que la cible du prestataire, cible commerciale, correspond aux gens qu'on invite à nos événements, et ben avec plaisir pour les accueillir, pour construire une relation, pour marketer leur offre. C'est très important, on travaille beaucoup leur proposition de valeur pour qu'elle colle bien au sujet et qu'elle puisse créer, susciter de l'intérêt pour les Big Boss présents. Et par exemple, si on a une agence, bon, une agence, par défaut, ça sait tout faire, mais donc nous, ce qu'on veut, c'est que l'agence, elle soit sur un petit périmètre très précis pour vraiment marquer de l'intérêt. Puis après, elle saura défendre sa valeur ajoutée plus globale pour élargir son potentiel. Mais on veut, au début, qu'elle soit vraiment dans une logique
en adéquation.
En adéquation. Par exemple, j'ai une agence qui au départ disait qu'elle était agence 360 digitale, qui est très bien, mais elle vend quoi concrètement? Maintenant, elle travaille beaucoup tout ce qui est attribution de data, tout ce qui est pilotage marketing des investissements, et donc c'est ce que les gens veulent entendre.
Donc en fait, n'importe qui peut être sponsor tant qu'il y a un match, tant qu'il y a un fit avec les Big Boss présents et avec l'essence même des Big Boss, tant que c'est pertinent en fait. C'est ça que tu es en train de dire.
C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro exclusif. Il y en a eu et on les a arrêtés parce que c'était trop compliqué d'avoir comme ça des exclusivités sur certains sujets. En revanche, très clairement, quand on a 150 sponsors sur un gros événement, autant avoir 130, 140 sujets différents. Plus on a une richesse fonctionnelle pour les Big Boss, plus ils seront contents, plus ils trouveront chaussures à leurs pieds et plus ils pourront, avoir un ROI concret. Parce que de manière très simple, la réussite d'un Big Boss dépend en partie des prestataires avec lesquels ils s'entourent. Et donc, bien choisir ses prestataires, c'est aussi faire avancer son business de manière plus rapide, plus efficace.
Ok, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est avec les sponsors et leur présence que toi tu fais ton chiffre d'affaires. De ce que tu peux me dire, aujourd'hui le business model des Big Boss c'est quoi? Est-ce que c'est que la présence de sponsors? De ce que tu peux me dire, comment aujourd'hui se constitue le business model des Big Boss?
Alors c'est très simple, hein. On a un modèle, on a une façon de le faire qui est radicalement différente, mais on a un modèle très salon. Les exposants sont des sponsors, hein, sauf que nous, il n'y a pas de hall d'exposition, il n'y a pas de stand. Et puis, les visiteurs sont les Big Boss qu'on invite. Voilà. Donc, en gros, très manichéen. Soit tu es acheteur, tu es invité. Soit tu es vendeur, tu payes.
Okay.
Et donc, pas d'acheteurs qui payent, pas de vendeurs qui sont invités. Non, c'est vraiment très structurant. D'ailleurs, ça, certains sont étonnés. C'est non, mais moi, je suis pas vraiment sponsor, mais je veux quand même venir. Mais en même temps, je veux être invité. Ah ben non, si tu es invité, c'est que tu as des projets concrets et que tu veux bah voilà, rencontrer les prestataires qui matchent, et donc bah voilà, tu es vraiment donnant-donnant. Si tu es vendeur, bah, tu as une offre et tu veux présenter ton offre à des acheteurs potentiels.
Donc en fait, c'est carrément binaire. Soit on est acheteur, soit on est vendeur. Il n'y a pas de commission sur les deals qui sont faits lors des événements. Non. Ça ne va pas jusque-là.
On a eu ce modèle-là au début, mais c'est très compliqué parce que finalement, il y a un suivi qu'on doit faire. Et bon, finalement,
c'est compliqué.
On présente un prestataire, un annonceur. Si ça signe, c'est aussi le talent du prestataire et pas forcément la pertinence de la rencontre initiale. Donc, ça devenait trop compliqué, trop hasardeux. Et donc, progressivement, on a migré vers des modèles tout aussi.
Okay, le modèle est tout aussi efficace, mais en étant plus stable, en étant acheteur-vendeur, quoi. C'est tout, c'est plus.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est sûr que le prestataire qui va signer 1 million d'euros et que lui donner 10%, 100 000 euros, bah, peut-être qu'on va le regretter. Mais en même temps, chacun son métier. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les prestataires aient des rendez-vous qualifiés suite à leur participation aux événements. Et puis, à eux d'aller closer, en fait, convertir ces rencontres en business.
Chacun son travail. Toi, tu les réunis, eux, ils closent.
C'est ça.
Ok. J'ai envie de parler quelque chose qui est quand même super important et qui est aussi, je pense, assez intéressant. C'est la monnaie virtuelle, le Lynx, qui est une unité de consommation qui est donc du coup intégrée au Big Boss. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est, comment vous l'avez mis en place et aujourd'hui l'importance du Lynx sur, bah, pour les Big Boss en fait?
Alors en fait, on s'est rendu compte très vite qu'on avait une base récurrente très importante. En fait, ils revenaient d'édition en édition. On n'avait pas de contrat annuel avec eux. Hein. On négociait chaque année un package, un volume, une intensification. Et donc, j'ai eu l'idée, un peu comme les modèles SaaS traditionnels, d'avoir une facturation à la consommation et non plus à l'acte. Donc, on a défini un principe d'abonnement, donc le contrat Lynx, avec des unités. Donc un Lynx, c'est une unité de consommation. Donc par exemple, un dîner VIP, c'est 2 Lynx, une journée, c'est 5 Lynx.
C'est des crédits, en fait.
Des crédits, voilà, comme on peut consommer sur des programmes de feed ou autre. Et donc, le prestataire va consommer donc en amont de voilà, il va se dire, ah, moi je voudrais mettre 30, 40, 50, 80 000 euros sur un budget à l'année. Okay. Et donc ensuite il va pouvoir consommer son budget avec des unités Lynx et du coup avec une grande flexibilité parce qu'il peut arbitrer sur des formats et puis finalement se concentrer sur d'autres, une logique bien sûr des volumes prix, donc de remises associées, et puis on a une Customer Success Manager qui va aider les prestataires lorsqu'ils sont bloqués sur des deals. Voilà, donc en gros le contrat Lynx c'est finalement un contrat comme un contrat de confiance qu'on lit avec des prestataires qui donc nous font confiance dans l'année, à nous d'aller leur assurer le meilleur ROI et puis à eux voilà d'être satisfaits je dirais d'une prestation et puis d'en tirer une remise commerciale associée à leur engagement.
Ok, donc en fait le crédit le Lynx, excuse-moi, comment tu le prononces?
Le Lynx.
D'accord,
voilà, ça s'appelle DigiLynx. Donc le Lynx, c'est l'unité Lynx comme un lien. Voilà, donc en gros, le Lynx, il a une valeur à 2000 euros. Et puis, son prix baisse en fonction de l'engagement.
Ça allait être ma question. Okay. D'accord.
Voilà, c'est des remises qui vont de 7 à 30% en fonction de l'engagement. Nous, on a des clients qui dépensent 200 000 euros à l'année, hein, certains qui dépensent aussi 100, 150 000 euros à l'année. Et donc, bah, pour cela, le prix du Lynx est plus bas. Hein, donc, ils vont s'engager à faire plus d'événements dans l'année, mais chacun de leurs événements coûteront moins cher que le petit camarade. Voilà, donc tout le monde est gagnant. Nous, on crée un volume plus gros. Eux, ils ont des remises et donc un ROI plus fort à l'arrivée. Et donc, tout le monde est gagnant.
Et on imagine bien qu'un Lynx acheté, on ne peut pas le rendre. Il est acheté.
Alors le Lynx n'a pas de marché secondaire, c'est pas comme une cote à la bourse que tu peux trader. Non, en fait, les Lynx doivent être consommés. Si jamais le contrat est reconduit mais que les Lynx ne sont pas consommés, on peut reporter d'une année sur l'autre les Lynx non consommés.
Okay.
Si jamais il y a une résiliation effective, bah, le prestataire a 3 mois pour consommer ces Lynx non consommés, d'accord. Donc il y a un principe où il n'y a pas de perte, hein, et on ne peut pas perdre de Lynx. En revanche, bah, voilà, le but de ces Lynx, c'est de les consommer, on ne peut pas les trader à l'extérieur. Quand on parle de monnaie, on y va un peu fort, c'est du marketing, quoi. C'est plutôt une unité de consommation et en fait on ne peut pas la trader derrière, quoi.
D'accord, il n'y a pas de marché secondaire, il y a un marché primaire.
Ce que tu achètes, tu les consommes pour toi, tu les vends à un autre ou autre, quoi.
Il y a une seule émission de Lynx, c'est vous, il n'y a pas de marché secondaire, quoi.
n'y a pas de marché de gondole. On pourrait, mais bon, c'est compliqué. Surtout que nous, concrètement, pour, comme on est une société de service, pour réaliser le chiffre d'affaires, il faut qu'il soit produit. Donc, il faut que les links soient consommés. Okay. Donc, en gros, on ne peut pas vendre des links qui, du coup, seraient consommés par d'autres. Enfin, ce serait trop compliqué d'un point de vue comptabilité. On a un commissaire aux comptes, on a même un fonds d'investissement. On a levé 18 millions d'euros il y a quelques mois. Et donc, voilà, on doit être très, très précis.
En septembre
Etc.
Ok, pour projeter l'entreprise à l'international.
Ouais, pour en gros dupliquer le modèle en France et aller s'industrialiser à l'international. Ouais, tout à fait.
Ok, bah écoute, on a tout compris, je pense, sur les événements. T'as donné les quatre grandes familles, t'as donné la fréquence. Est-ce que peut-être en 10 secondes, tu peux me redonner la périodicité, si ça se dit, des opus, des verticales, des journées et des dîners en 10 secondes. Combien il y en a par an, tout simplement.
Ben, en gros, on a à peu près 25 dîners dans l'année, donc ça en fait deux par mois. On a une dizaine de journées, donc ça en fait une par mois. On a trois verticales, donc ça en fait une par quadrimestre. Et puis on a deux opus, juin, décembre, donc tous les semestres. Donc en fait, plus l'événement est fort et moins il est fréquent, de manière logique. Ouais. Bon, on a quelques confrères qui font 200, 300, 500 événements, hein, donc c'est tout à fait possible. Il suffit de multiplier les ressources et de démultiplier aussi les territoires, parce qu'à un moment donné, ça devient limité. On ne peut pas se permettre de créer 100 événements pour une même population, bah, parce qu'elle ne pourra pas faire les 100, bien entendu, et puis elle aura une sursollicitation qui sera trop forte. Donc c'est pour ça qu'on a développé sur des sujets finance, achat, immobilier, supply, IT, data, pour justement aller sur des territoires neufs à chaque fois.
Ok, maintenant, petit moment, team, aujourd'hui, les Big Boss, l'effectif, vous êtes combien? Et est-ce que tu peux me donner un peu les différents pôles, comment ça se passe pour... tu vas pas te répéter parce que tu l'as déjà dit, comment vous bookez, comment vous closez vous de votre côté, comment vous organisez des mois à l'avance en amont pour faire un event, mais voilà, combien vous êtes, comment ça se passe en interne, etc. Où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous êtes basé, etc.
Alors là, on doit être à peu près 25, on va rapidement arriver à 30 parce qu'on a quelques personnes qui arrivent là. On a une personne qui arrive la semaine dernière, une personne qui arrive aujourd'hui, une personne qui arrive début mars. Donc on a encore quelques pôles. On va dire qu'à vitesse de croisière, là, dans les semaines à venir, on sera 30. C'est réparti en 5 pôles. Donc il y a un pôle finance, RH, achat, administratif. On a le pôle support classique. Ensuite, on a 4 pôles, on va dire opérationnels. On a un pôle opération. Donc monter les événements, caler en fait tous les sujets liés au business et à logistique. Donc ça c'est le pôle opération qui est par Camille qui travaille depuis 6 ans maintenant. On a le pôle communication, contenu, relations publiques. Donc c'est tous les sujets à la fois communication opérationnelle mais aussi bande marketing. Enfin tous les sujets qui vont permettre de générer du flux, de l'impact, de l'aura et des leads. Donc des leads en sponsor et des leads en Big Boss, donc piloté par Véronique aujourd'hui. On a donc Vincent qui pilote le commercial avec deux team leaders, donc une petite team de personnes dans cette équipe. Et puis Dimitri qui pilote la communauté Big Boss, donc en gros les Big Boss managers qui vont inviter les Big Boss, qui vont qualifier leurs besoins et qui vont filtrer les bons Big Boss par rapport à ce qu'il ne faut surtout pas inviter, parce qu'ils n'ont pas de projet, sujet ou sujet. Puis on peut s'adresser
qui filtre un peu, quoi, même si le mot n'est pas bien choisi, c'est ceux qui vont filtrer un peu les big boss pour les événements, etc.
C'est comme des physionomistes de boîte de nuit. D'un côté, ils doivent chasser les bons, de l'autre côté, ils doivent filtrer les mauvais.
Ok, d'accord. Donc, du coup, maintenant, petite partie prospection, acquisition. Aujourd'hui, les big boss, vous êtes présents sur quel réseau? C'est quoi un peu votre stratégie de, à la fois de communication et digital, en fait?
En fait, le digital marketing, donc, on couvre depuis 6 ans. Depuis un an, on a ouvert d'autres territoires. En fait, les territoires sont infinis. Dès qu'on est dans une logique B2B, on a besoin d'avoir des prestataires. Et donc, on va pouvoir déployer des événements, des dîners, des journées, des verticales, pourquoi pas des opus, dans chacun des territoires. Alors, des fois, il y a des sujets culturels. Par exemple, les gens de la finance, de la banque, est-ce qu'il est pas forcément pertinent de les envoyer 3 jours en immersion du vendredi au dimanche? Pour autant, les gens de l'IT, les gens de la com, du marketing, ils peuvent tout à fait le faire. Donc, en gros, nos enjeux sont infinis. Si on prend toutes les directions fonctionnelles d'une entreprise, bah, ça peut peser 15 ou 20 directions distinctes. Certaines directions sont très grands comptes, d'autres sont très ETI. Nous, on travaille beaucoup ces deux sujets, ETI grands comptes. Les PME, c'est moins notre terrain de jeu parce okay. que ce sont celles qui ont par essence moins de budget. Donc, on a plutôt des PME côté prestataire et plutôt des ETI grands comptes, plutôt Big Boss.
D'accord, c'est plus ETI et grands comptes en fait. PME, limite, c'est pas trop votre terrain, c'est pas.
Un Big Boss doit avoir au moins 1 million d'euros de budget. Donc, à part quelques pure players qui peuvent avoir ces budgets-là tout en restant des PME, on veut quand même plutôt des ETI ou des grands comptes.
Alors maintenant, on arrive sur la fin. On est toujours sur mes questions bonus. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu fais de la veille par rapport à tout ce secteur justement de l'événementiel en grand compte et en ETI? Comment tu surveilles un peu ce qui se passe? Je pense que tu connais à peu près tous les acteurs de ton marché. Comment tu surveilles ce qui se fait?
Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression, j'ai une certitude, qu'il y a beaucoup de gens qui font des veilles sur nous, ce qu'on fait, parce que les gens n'y croyaient pas du tout au Big Boss, ils pensaient que ça allait s'éteindre tout de suite, que ça ne pouvait pas marcher, cette ambiance un peu conviviale, en même temps business. Et puis finalement, je vois beaucoup de mes confrères se jeter sur des typologies d'événements, sur des typologies de concepts qu'on a créés. Bon, est-ce que c'est la rançon du succès? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit beaucoup d'initiatives très proches de ce qu'on fait. Moi, j'observe aussi beaucoup ce qui se fait ailleurs, que ce soit en France ou à l'international. En fait, nous, on a un ADN, on n'en démordra pas, et donc on travaillera toujours nos sujets à travers cet ADN. On ne veut surtout pas méchamment copier ou bêtement copier. On veut justement travailler nos sujets avec notre ADN, avec la convivialité, avec le business, avec un parti pris fort que la relation humaine est plus forte que la relation digitale ou virtuelle, et que donc c'est un mix des deux qui crée l'intérêt global.
Ok. Deuxième question, du coup, je pose à tous mes invités, mais ça va être encore une fois très intéressant parce que tout le monde a un parcours, tout le monde a un profil différent. Je vais te demander, si tu veux, ton avis sur l'entrepreneuriat. Je m'explique. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que tu as lancé les Big Boss. Ça fait bien plus de temps que, si tu veux, que tu es dans le business, que tu as lancé des entreprises. Est-ce que tu peux me donner le ressenti du Hervé il y a quelques années avant l'entrepreneuriat et aujourd'hui, le Hervé en 2020, si tu veux, le delta entre avant d'y être et maintenant que tu y es depuis longtemps, si tu veux, que ce soit d'un point de vue personnel, fais une introspection sur toi-même, sur ton ressenti et puis surtout professionnel en fait. Qu'est-ce que tu remarques entre, si tu veux, l'idéalisation du début sur comment on imagine le projet ou même le parcours et aujourd'hui en fait, maintenant que tu es dans l'exécution pure et dure depuis plusieurs années?
Alors, très bonne question. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme la bosse du commerce. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas? Quand on est un entrepreneur, on a souvent des vengeances personnelles ou une envie de démontrer, une envie de faire, une envie de réussir. Moi, ça a été mon cas. Et donc, y en a qui n'ont pas du tout ces sujets-là. Il y en a pour qui être cadre dirigeant dans l'entreprise, ça leur suffit de l'argent. Ils n'ont surtout pas envie de prendre peur. Et puis, il y en a d'autres qui sont très envieux parce qu'ils auraient bien voulu le faire, mais ils n'ont jamais réussi, ils n'ont jamais eu l'énergie de le faire, etc. Moi, ça a toujours été une évidence. C'est-à-dire, je savais qu'il fallait que je fasse le début de ma carrière chez les autres pour observer, pour prendre de la matière, de la connaissance, du carnet d'adresse, de l'expertise. Et donc, finalement, j'ai travaillé 15 ans chez les autres avant de monter ma structure. Dans les derniers temps, ça devenait complètement ubuesque parce que j'avais un très gros réseau, j'avais un réseau plus important que mon patron. Donc, ça commençait à devenir incohérent de rester chez les autres. Mais finalement, ça a toujours été un peu naturel chez moi. Et je suis très content de l'avoir fait après 10 ou 15 ans chez les autres parce que on apprend beaucoup chez les autres. Et les jeunes start-upers qui aujourd'hui débarquent alors qu'ils n'ont jamais piloté aucune expérience professionnelle chez les autres, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Puis aussi une certaine maturité. Quand on a 44 ans, on n'a plus 25 ans non plus, donc on ne fait plus les mêmes erreurs, on n'a plus les mêmes notions au départ. Donc, en gros, l'entrepreneuriat, c'est difficile, contrairement à ce que l'on pense. On voit que les succès, mais il y a énormément d'échecs, il y a énormément de projets qui ne tiennent pas. Moi, j'estime que l'entrepreneur doit avoir 3 compétences. Et si il en manque des compétences, il faut qu'il s'entoure bien. Donc la première compétence essentielle, c'est une compétence commerciale. Il y a bon nombre d'entreprises qui ont beaucoup d'aptitudes, mais qui n'ont pas l'aptitude commerciale et ils se plantent. Et d'ailleurs,
quand on n'a pas du tout l'attitude commerciale, on se plante dans son directeur commercial et du coup, ça ne marche pas. Deuxième aptitude, c'est une aptitude que j'appellerais produit, création, vision, stratégie, d'accord, très importante. Et puis enfin, une compétence administrative, gestionnaire, financière, etc. Moi, j'avais plutôt les deux premières, ce qui tombe bien parce que c'est les deux plus importantes. Et puis, au début, c'était un peu chaotique, tout ce qui était administratif chez moi. Et là, ça commence à être bien structuré. Mais globalement, c'est le moindre mal. C'est-à-dire que si on doit ne pas avoir la compétence sur une des trois, autant que ce soit la partie administrative, parce qu'on peut toujours se faire épauler par un comptable, un expert comptable, etc., etc. En revanche, lorsque nous sommes face à des gens qui n'ont pas l'énergie commerciale ou qui n'ont pas la vision marketing produit stratégique, ça ne marche pas. Alors, on peut s'associer. C'est pour ça que les bonnes associations, qui est quand l'un est le commercial, l'autre est le gestionnaire, ou l'un est le visionnaire, l'autre est le commercial. Mais si les associés ont finalement les mêmes compétences, ça ne marche pas. Quand deux sales s'associent, ça fait deux sales. Il manque des choses. Quand un sales et administratif s'associent, il manque encore la vision, le produit, etc. Donc, en gros, moi, j'ai beaucoup observé dans ma vie d'entrepreneur, même dans ma vie de salarié proche d'entrepreneur, j'ai beaucoup observé, en fait, des sociétés qui ne fonctionnent pas pour ces raisons-là.
Ok, donc pour toi, une équipe de fondateurs, ça doit être complémentaire avec les trois compétences clés que tu as données. Et en plus de ça, pour toi, chaque entrepreneur a son moteur personnel. Et si je peux me permettre, le tien, du coup, c'était un peu ton orgueil à toi, en fait. C'était ton envie, depuis le début, intrinsèque, initial. C'était ton orgueil qui t'a poussé à avoir envie de réaliser ce genre de choses.
Non, l'orgueil, je ne sais pas, mais en tout cas, l'envie de faire. J'ai toujours... moi, mes parents, ils étaient assureurs. L'un était à son compte, l'autre était salarié. Enfin, j'ai toujours su que j'avais une énergie commerciale. Je l'ai déployée chez les autres. Et puis, à l'arrivée, je l'ai déployée pour moi.
Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'entièreté du podcast, sur la globalité, revenir sur un point? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Attends, j'ai pas entendu. Comment?
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur l'entièreté du podcast, sur la globalité? Peut-être un point que tu veux détailler, rajouter quelque chose?
Non. En gros, c'est important d'écouter ces podcasts parce qu'on apprend toujours de l'expérience des autres et on se nourrit des échecs ou des réussites des autres.
La richesse du discours des autres, tout simplement.
Exactement.
Comme il y a énormément de livres qui sont intéressants, tout comme le podcast, c'est un contenu, c'est une richesse différente.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Hervé pour ce podcast, pour cette interview. C'était super intéressant. Merci à vous d'avoir écouté. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, passionné ou non d'entrepreneuriat. Donc, à retrouver tout step partout sur LinkedIn, sur Facebook, il n'y a pas de problème. À suivre Hervé Bloch sur LinkedIn pour en découvrir un peu plus sur lui. Et surtout, allez voir les Big Boss sur lesbigboss.fr. Hervé, t'as rien à rajouter?
Longue vie à ton podcast.
Eh bien, merci beaucoup, merci à toi Hervé et merci à vous d'avoir écouté l'épisode. À bientôt.